Je sais, c'est comme les enfants, hein, rien ne me fait rire. Carnet de campagne, bonjour. Dernière édition dans le département du Haut-Rhin. Et un événement a eu lieu samedi dernier, je vous en parle avec un petit peu de retard, mais vous allez comprendre pourquoi. C'était à Lapoutroie, sous le nom d'Asilo, en référence à une association locale d'aide aux migrants, Elpo Asilo. Il s'agissait en fait d'une journée solidarité afin d'informer le public des questions soulevées par la venue des migrants en France et des problèmes que rencontrent ces personnes, et plus particulièrement les mineurs que l'on appelle dublinés, pour lesquels départements et préfectures se renvoient les responsabilités. Les principales associations haut-rhinoises concernées étaient présentes comme Chemin de Partage, basée elle aussi à Lapoutroie. Décidément, cette commune de 1800 habitants est drôlement active et qui a permis Chemin de Partage, l'arrivée et l'installation dans un logement mis à disposition par la commune d'une famille syrienne il y a peu de temps. Et cette même association avait déjà aidé deux familles syriennes à régulariser leur situation en 2017. Elles sont désormais installées à Mulhouse, même si l'une des deux doit refaire prochainement une demande de droit d'asile. Le blog de l'association, c'est Chemin de Partage, chemin c'est au pluriel, .over-blog.com. C'est une adresse que vous allez trouver à nos pages d'émission, évidemment. Dernière invitée depuis le Haut-Rhin, Jeanne Frey, infirmière scolaire au collège de Lille à Ilfurt et initiatrice de Silence en ligne, pratique quotidienne et collective à la lecture en milieu scolaire. Vous pouvez lire en parallèle l'article que notre confrère Laurent Gibowski a consacré à cette opération dans les pages numériques de La Vie. Et puis nous rejoindrons Sylvie Le Calvez à France Bleu Normandie Caen pour ouvrir un dossier du magazine Village spécial été.
France Inter, carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Jeanne Frey, bonjour.
Bonjour.
Merci pour votre courrier, Jeanne.
C'est moi qui vous remercie.
Non, parce que vous êtes notre correspondante d'une mise en place, d'une initiative dont on a déjà parlé sur l'antenne de France Inter, mais pas dans les carnets. C'est d'ailleurs en écoutant France Inter que vous avez eu cette idée.
Tout à fait, c'est la faute à Inter. J'ai entendu Monsieur Delahaye, qui est le président de l'association, qui prône le concept. Il en a parlé sur votre antenne. Oui. Et j'ai tout de suite trouvé cette idée très fabuleuse. Mais en même temps, j'ai eu très peur de la mise en œuvre, que je trouvais un peu complexe. Et je me suis rapprochée de Monsieur Delahaye, qui m'a expliqué oui. le concept. Et une fois qu'il me l'a détaillé, je me suis dit, non, là, il faut y aller, il faut se faire violence. Et voilà, j'ai démarré. Le projet.
Olivier Delahaye, donc, à la tête d'un concept qui est validé maintenant par une association pour la promotion d'une pratique quotidienne de la lecture plaisir, oui. qui s'appelle Silence en lit. Vous, Jeanne, vous êtes infirmière scolaire au collège de Lille à Ilfurt.
Oui.
Et vous avez pris ça en charge, vous avez pu convaincre les responsables de l'établissement?
Voilà. Alors, écoutez, j'ai obtenu l'adhésion du chef d'établissement très, très vite. Et il m'a proposé de suite de proposer le concept au comité d'éducation de la citoyenneté qui regroupe toutes les actions au sein du collège. L'adhésion a été quasi instantanée et des enseignants et des parents aussi, puisque les parents sont représentés. Les enseignants ont de suite adhéré quand ils ont compris le concept et le plus que pouvait apporter une telle action et par les stratégies qu'elle déployait.
Oui. Or, le principe, Jeanne, donc c'est tous les jours de voilà. la semaine, à heure fixe, on consacre 15 minutes en silence à la lecture.
Voilà, donc c'est tout le monde, donc le chef d'établissement, les enseignants en cours, la vie scolaire, les agents techniques, les agents de l'administration, tout le monde s'arrête en même temps. De cette manière-là, on envoie toute une série de signaux. La lecture n'est pas seulement faite pour apprendre, mais aussi pour le plaisir, et n'est pas réservée à une élite. Et le fait que ce soit quotidien, c'est comme une gymnastique du corps, comme un sportif, on prend soin de soi. Le livre devient un compagnon, l'idée c'est qu'on est toujours un livre au cours de lecture. Mmh. Et comme tout le monde le pratique, il s'instaure un silence, mais alors c'est une découverte. Un silence dans un mode de pollution sonore, c'est vraiment très très particulier. C'est extraordinaire.
Alors il s'agit uniquement de lecture de romans, il n'y a pas de magazine, de manuel scolaire, de journal.
Voilà. Donc ils lisent des romans, ils peuvent lire des BD, mais pas de journal, pas d'article, parce qu'il faut quand même rentrer dans une procédure de lecture un peu plus longue. Donc voilà, c'est ça.
Mmh. Et les livres sont apportés par les enseignants et les collégiens?
Voilà. Donc c'est les élèves qui apportent leurs propres livres, mais évidemment la documentaliste met à disposition beaucoup de livres. Les élèves échangent aussi leurs propres livres. Les enseignants ont mis en place dans chacune des classes des boîtes avec des ouvrages qu'ils ont apportés de la maison pour dépanner les élèves qui oublieraient leurs livres, ce qui arrive quand même très très peu. C'est vrai qu'il va falloir enrichir notre fonds documentaire. On travaillera, je pense, avec la bibliothèque de Furt. Voilà. Donc ça c'est encore des choses à développer.
Et alors, à quelle heure on lit?
Alors ça, c'est une décision de chaque établissement selon le mode de fonctionnement. Donc nous, la stratégie qu'on a choisie, c'est de faire une rotation par semaine. Donc à chaque changement d'heure par semaine, on fait ce quart d'heure, toujours en début de cours, puisque ça déploie un moment de calme et qu'ensuite, au bout d'un quart d'heure, les enfants rangent leurs livres et puis se mettent tout de suite au travail.
Jeanne, la lecture, c'est bon pour l'esprit, c'est bon pour le corps aussi, on déstresse. On se tranquillise, on va s'épanouir dans un autre univers, dans l'imaginaire. Pour une infirmière scolaire, c'est le chômage assuré pour vous?
Mais pas du tout, j'ai largement suffisamment de travail. Mais c'est vrai que la lecture apporte tout ce que vous venez de dire. Mais la manière dont c'est déployé dans Silence, on lit, ça va développer toute une série de compétences, justement de confiance en soi, de responsabilité, de reconnaissance, d'appartenance aussi à un groupe. Et c'est dans ce sens-là que l'infirmière s'inscrit dans un tel projet. Parce qu'on me dit souvent, mais la lecture, qu'est-ce que l'infirmière va voir là-dedans? Mais c'est parce que... La manière dont les stratégies sont déployées, ça développe ces compétences-là qui vont avoir une incidence sur les apprentissages.
C'est formidable. Si vous êtes intéressé par le mouvement, le site c'est silenceonlit.com.
Voilà.
Et puis vous aurez un lien aussi avec le collège de Lille d'Ilfurt si vous voulez découvrir l'établissement et l'initiative proposée par Jeanne qui est en train de s'installer ici en Alsace, et tant mieux. Merci Jeanne.
Je vous en prie. Au revoir.
Carnet de campagne. Philippe Bertrand sur France Inter.
Non, je t'ai plus. Merci. Une vague de courriers a submergé notre bureau pour dénoncer la coopérative EPA, Énergie Partagée Alsace. Créée en 2007 par un expert en installation photovoltaïque avec l'appui d'un petit groupe de 25 habitants, cette coopérative est un opérateur maintenant essentiel dans le conseil et le financement des projets d'économie d'énergie et d'énergie renouvelable. Très vite, elle a mené des actions, cette association de sensibilisation à la réduction de la consommation énergétique, comme l'achat groupé de l'aide, des animations locales, des festivals grand public, et depuis sa création, la coopérative, grâce aux collectivités, surtout aux campagnes de financement participatif, a construit plusieurs centrales solaires. À Colmar et puis dans le Bas-Rhin, avec la première centrale du département à Berchtet, la coopérative précise bien que les investissements réalisés ne sont pas à but d'enrichissement et que les risques financiers sont très limités au regard des contrats de vente sur 20 ans à EDF. Certaines réalisations sont transfrontalières grâce à des investisseurs suisses et allemands. Et comme l'écrit l'un de nos nombreux correspondants, Fessenheim s'éteint, le relais prend forme depuis plusieurs années pour satisfaire la soif d'énergie dans cette grande région du Rhin supérieur avec plus de 5 millions d'habitants. Le site c'est énergie au pluriel, trait d'union partagé, trait d'union alsace.com. C'est un petit peu long, mais comme toutes les autres, vous allez la retrouver à notre page d'émission. Et on parle souvent d'SMH sans trouver d'illustration concrète. La première qui peut venir à l'esprit pour exprimer l'SMH, un SMH réussi, c'est le mouvement Alternatiba. En quelques années, il est devenu national, même en partie européen, en valorisant les alternatives locales qui éviteront la catastrophe climatique qui nous guette. Le groupe Alternatiba de Mulhouse s'est constitué en 2015. Il est porté par l'association Sud-Alsace Transition. Et depuis cette date, le collectif organise chaque année un village des alternatives. C'est le quatrième du nom qui aura lieu samedi 30 juin, dimanche 1er juillet au parc Salvator de Mulhouse. Son menu est à l'image des autres villages, la promotion des initiatives locales favorables à la préservation de l'environnement et à la mise en route de modèles sociaux équitables. Ça donnera des concerts, des ateliers, des conférences avec le club des cigales, le panier du Mélala dont on a parlé, à Futur Épicerie Participative, Énergie Partagée Alsace justement y sera, Terre de Liens, le réseau Échange de Savoir, etc., etc. L'adresse, c'est alternatiba-mulhouse.org, samedi 30 juin, dimanche 1er juillet. Sylvie Le Calvez, bonjour.
Bonjour Philippe.
Sylvie, directrice éditoriale du magazine Village, dont le numéro d'été vient de paraître avec, comme chaque trimestre, de nombreux dossiers. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur les petits campings. Pourquoi ça marche? Alors d'abord, c'est pourquoi ça marche, c'est une affirmation, c'est pas une question. Alors moi, je vais vous poser la question. Pourquoi ça marche? Ça correspond à quoi, les petits campings?
Les petits campings, ce sont ceux qui ont en gros entre 60 et 100 places, 150 places. Il y en a énormément en France. Il y en a des municipaux, environ 25%, des privés, 70%, et des associatifs. Donc il y a quand même une hétérogénéité dans les propriétaires de campings. Mais c'est vrai que nous, on s'est intéressé aux petits qui sont en campagne, qui ferment peu à peu. Il y en a eu un millier qui ont fermé ces 10 dernières années, donc c'est quand même énorme, alors qu'il y a un potentiel. Si on sait innover, si on sait faire un camping thématique, vélo, moto, festif, western. En tout cas, c'est ce qu'a vu sur le terrain notre journaliste Stéphane Perrault, qui en a parcouru pas mal, et qui a dit, s'il y a une patte, on est prêt à faire des milliers de kilomètres pour aller dans un camping qui a de la personnalité. Et donc, on voyait que de plus en plus de communes fermaient leur camping, alors qu'en osant passer une annonce pour trouver un repreneur, on peut multiplier par 2 ou 3 le chiffre d'affaires et avoir un joli petit camping qui fonctionne bien et permettent à une personne ou à un couple d'en vivre.
Ouais. Il faut un peu de patience. Toutefois, c'est l'exemple de Jean-Luc, photographe. Il a misé 100 000 euros en 10 ans, enfin investi sur le camping du Buisson dans l'Isère à Saint-Martin-du-Riage, avec tout type d'habitat. Enfin, il y a de la tente, il y a de la yourte. Alors, il peut y avoir de la yourte haut de gamme, c'est sur 2 hectares. Mais dit l'avantage, c'est que nous, on propose pas d'animation, il n'y a pas de gentil animateur et un club Zumba, mais on a le calme.
Alors, c'est vrai que la première partie de la remarque de dire on a investi en dur, alors que ce soit dans des maisons minuscules en bois, des tiny houses, ou des tipis, ou des bungalows, etc., ça a beaucoup changé la donne des campings, et qu'aujourd'hui, les campings qui marchent, ils ont 7 parties en dur, et puis une partie en placement de tente, en gros, à 10-15 euros. Donc ça fonctionne, il faut avoir toute la gamme, ce qui a aussi une demande de confort en matière de camping aujourd'hui. Sachant que la France, elle est connue pour cette destination camping, hein. C'est quand même le premier pays européen en matière de fréquentation des campings, avec la Vendée qui arrive en tête dans les départements. Mais par contre, certaines clientèles veulent du confort et donc l'investissement dans certains produits en dur est un plus. Et puis c'est vrai que le calme, c'est une vraie valeur ajoutée pour certains qui sont surpressés toute l'année dans des métropoles par exemple. Et quand ils vont en camping, ils n'ont pas forcément envie de se retrouver dans les immenses campings du bord de mer, et que les petits campings des milieux ruraux ou montagnards ont leur carte à jouer.
Il y a plusieurs soucis, Sylvie, quand même. C'est que d'abord, c'est coûteux. Investir demande quand même beaucoup de temps, de patience, comme je le disais, de moyens. Le terrain moyen en taille, c'est 80 à 120 emplacements, comme vous le disiez. Le coût, ça peut aller de 500 000 euros à 1 million d'euros. En plus, ça, le métier est difficile parce qu'il est multitâche. Et troisièmement, il n'y a pas de formation.
Oui, alors il y a quelques formations, elles sont fort rares, en Vendée notamment, hein, donc il y en a de toute la France qui viennent sur ces formations organisées par exemple par les boutiques de gestion, mais si on se dit « Ah, je vais me reconvertir, puis je suis multicompétent, je vais pouvoir reprendre mon camping et puis en vivre », on en vit, mais avec un tout petit salaire, il faut du temps. Parfois, il faut avoir vendu sa maison qu'on avait en ville, par exemple, pour monter son affaire, parce que les banques sont très frileuses, alors qu'il y a des réussites, même beaucoup de réussites. Donc, c'est vrai qu'il faut y croire. Et puis, il faut avoir envie de toucher à tout. C'est-à-dire que si on commence à prendre l'électricien parce qu'il y a une prise qui est dessoudée ou une fuite et qu'il faut faire venir le plombier, ça va pas être rentable du tout. Donc, il faut être aussi très polyvalent, mais très manuel, surtout pour pouvoir se dire, voilà, je peux vivre même si c'est avec l'équivalent du SMIC.
Ouais. Alors il y a des campings municipaux, parfois ils ne marchent pas très très bien, mais ils peuvent relever la tête et sortir la tête de l'eau grâce aux habitants. C'est le cas à Saint-Michel de Chabrianou en Ardèche.
Oui, j'aime bien cet exemple parce qu'on voit bien que une commune qui n'a pas forcément toutes les capacités d'innovation pour faire évoluer son camping, elle peut aussi se dire je travaille avec la population et j'en fais autre chose. Et c'est le vrai lieu d'animation de la commune. Hein. C'est, il y a des expos, il y a des ateliers, il y a des échanges de savoir dans ce camping. Et c'est vraiment toute la population du village qui accueille les vacanciers. Quoi. C'est intéressant, c'est une démarche originale et ça veut dire qu'il y a des pistes à expérimenter pour maintenir ce lieu de vie et ses possibilités d'emploi dans le village.
Donc voilà. peut-être pour vous une nouvelle orientation professionnelle. Enfin, je parle pas à vous directement, Sylvie, à tout le monde. Peut-être vous aussi, d'ailleurs.
Pourquoi pas,
hein, vous avez envie de monter des yourtes dans votre campagne normande. En attendant, donc, il y a ce dossier dans le magazine Village. Le site, je rappelle, c'est villagemagazine.fr. Et merci à France Bleu Normandie Caen. À bientôt, Sylvie.
À bientôt, Philippe.
La semaine prochaine, direction les Vosges, avant d'aborder la Moselle, le Morbihan et un peu plus tard, la Loire-Atlantique. Je répète, je resignale à nouveau ces destinations pour vos courriers. Toujours, nous sommes toujours friands de vos courriers. Merci à Anne Lureau qui réalisait les émissions des carnets. Merci à Joël Levert qui leur apportait du contenu. Merci aux techniciens, techniciennes de France Inter qui leur donnaient du volume, comme aujourd'hui. Antoine Teboul, Nicolas Stoufflet, assisté de Yann Paillet.